Voilà, soyez les bienvenus avec Leïla Kadorou-Dadi.
Bonjour à tous.
Guillermo Gouin.
Oui, naturellement.
Le Feignol.
Oh,
Albert.
Oh, bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bravo, Daniel.
Il a tout dit que pour lui.
Oui.
Et Charles qui est au gagné. Et notre invité, monsieur Grégoire de la Cour.
Grégoire.
Merci d'être là, fidèle Grégoire de la Cour.
Bah, merci à vous.
C'est une histoire, une belle histoire entre nous finalement. Si bah, à chaque roman vous venez, moi je serais ravi dans cette émission.
Bah, voilà.
Vous signez Danser au bord de l'abîme chez Jean-Claude Lattès. Une dame. Voilà,
une femme. Une jeune femme, elle n'a pas...
C'est mignon d'être une jeune femme, elle a 40 ans.
Elle n'a pas encore 40 ans.
Oui, presque.
Elle a presque 40 ans, trois enfants, mariée, puis... Bing, coup de foudre, un jour, tout sa vie bascule. Et c'est bien ça, c'est pas tomber amoureux, c'est basculer, ce sentiment de perdre l'équilibre, de danser au bord de l'abîme. Vous avez bien compris, Père Albert, pourquoi Grégoire de la Cour est notre invité?
Bien sûr, non, Guy, à moins que vous me preniez pour un abruti complet, ce que je ne peux croire.
Et
d'ailleurs,
peu.
Vous faites bien, non? Vous faites bien de poser cette question à moi plutôt qu'à vos comparses de la bande originale. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas que leurs doigts qui soient engourdis par le froid polaire. Leur cervelle également sont en hibernation. Et il est à craindre que leurs pauvres neurones ne soient pas prêts de se dégeler. Nous recevons donc ce matin Grégoire Delacour. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Car c'est un auteur à succès qui a beaucoup de savoir-faire pour attirer à lui un vaste public en évoquant l'amour et ses tourments. L'amour qui a ses raisons, que la raison ne connaît point. L'amour intense mais blessé. L'amour tant espéré mais hélas inassouvi. L'amour, je déforme de plus en plus, et ses vertiges. L'amour qui frappe comme la foudre. L'amour et le désir qui exténue. Bref, l'amour qui peut emmener les malheureuses qui en sont la proie à danser au bord de l'abîme, qui est justement le titre du nouveau roman de Grégoire de la Cour.
C'est bien.
Oh putain, c'est brillant ce que je viens de dire.
Ah, t'as lu le titre.
Un pitch incroyable. Je demanderai donc au public de m'applaudir.
Merci. Il a lu le titre, c'est formidable.
Merci. Je sais que vous avez... pardon. Mais je vois dans le regard atterré de Nagui qu'il est temps que je fasse le pitch.
Le pitch ou le résumé, comme
le
vous
résumé,
voulez.
Le résumé. Dans Danser au bord de l'abîme, l'héroïne Emma, maman apparemment comblée de trois enfants, mariée avec Olivier, sympathique marchand de voiture, synonyme d'escroc, décide de tout plaquer pour suivre un inconnu qui, dans une brasserie, un décor à la Claude Sauté, qui est évoqué d'ailleurs furtivement, lui a tapé dans l'œil en s'essuyant, alors là c'est son truc le mec,
en s'essuyant
délicatement la bouche avec une serviette de coton blanc damassée. C'est page 25. À ce sujet, vous me permettrez, Nangui, de... Oui, je sais, là, le voix s'essuie la bouche
c'est
et
possible.
Elle bascule. Vous me permettrez, Nangui, de glisser le commentaire que vous m'avez fait alors que je vous demandais ce que vous aviez pensé de danser au bord de l'abîme. Non, en gros, vous m'avez répondu tout à l'heure, de la course n'est pas foulée, l'histoire de cette femme, c'est Madame Bovary chez les ch'tis, là, tout pompé. Voilà, c'est court à dire, mais Dieu sait si c'était long et pénible à entendre. Mais si je ne partage pas le point de vue acerbe de Nangui sur la forme de votre roman, Grégoire, je n'en ai pas moins été choqué par son contenu. Passe encore que vous dépeigniez la tentation de l'adultère sous les couleurs les plus séduisantes et que vous décriviez par le menu comment une femme mariée peut succomber à la tentation de l'infidélité pour n'être plus qu'une boule de vice prête à subir tous les outrages, les souillures. Je vous cite, hein, page 25, et une décharge électrique jaillit, imprévisible, dans le bas de mon ventre, me brûle, m'ouvre, et le froid, et le vent, et les tempêtes, on voit ce que c'est, s'engouffrent dans mon invisible, mon insoupçonnable faille. Page 25.
Elle est bien, elle est chargée,
cette page.
Honte à vous, monsieur Delcourt, votre livre est tout simplement gorgé d'impureté. Oui, c'est impur, mais c'est bon. C'est impur. Mais c'est bon. Bon, je change de soutane et je reviens.
Merci, Albert.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
C'est vrai qu'au 19e, le bouquin aurait pu être interdit, puisque c'est quand même.
Oui, peut-être.
Si on fait référence à l'adultère, ça serait mal passé.
Il peut l'être aussi en 21e. Hein.
Non, pas encore.
On va attendre le mois de mai.
Grégoire de la Cour, vous signez donc Danser au bord de l'abîme. Cette expression, vous l'utilisez, vous dites on ne tombe pas amoureux, on bascule.
Il y a trébuche.
Ce sentiment de vertige.
Ouais. En trébuche amoureux, tomber, je trouve ça un peu bête. C'est chouette tomber amoureux, mais tomber, ça fait mal. Donc, je trouve l'expression curieuse, tomber amoureux. Donc, elle dit, moi, je trébuche amoureux. Mmh. C'est-à-dire, elle fait un faux pas, comme un croche-pied, puis elle bifurque ou pas. On va voir si elle va y aller dans le stupre.
Alors,
et l'horreur.
Vous allez nous dire qu'on fasse pas de gaffe et qu'on ne divulgage pas ce qu'il y a dans le roman. Jusqu'où voulez-vous que nous en parlions?
On va s'arrêter à la page 25, il me semble, d'une horreur sublime érotique. Donc, on va parler. Non, comme vous voulez. Franchement, comme vous voulez, il ne faut pas priver le plaisir des surprises et rebondissements, mais on peut évoquer.
En tout cas, on peut dire qu'il y a une rencontre avec cet Alexandre, que ce geste en effet extrêmement érotique vécu par votre héroïne Emma, Emmanuelle, ça dépend qui parle d'elle et la manière dont on parle d'elle, mais en tout cas, votre héroïne donc voit
Emma,
cette...
en l'occurrence, je pense.
S'appelle Emma.
Ouais, mais surtout
il y a sa maman qui l'appelle Emmanuelle.
Mais surtout, rencontrer Alexandre fait qu'il vaut mieux l'appeler Emma.
Bah, je pense.
Ouais.
Pour Bovary, on continue sur...
C'est Sam du verbe aimer, moi c'est ça voilà. Qui m'a touché aussi.
Il y a Emma, voilà. Vous dites que c'est elle, Emma, nue aussi.
Ça c'est Alexandre qui lui dit dans son nom...
Donc, vous jouez beaucoup avec le prénom.
Oui, elle est Manu dans ce prénom, et c'est curieux quand on désosse comme ça un peu les noms. Il y a une sorte d'érotisme doux qui devrait plaire
donc,
à mon voisin.
Elle a tout, Albert, le père Albert. Elle a tout sur le papier pour être heureuse, en effet. Son mari a été victime d'un cancer. Ils se sont battus ensemble pour combattre ce cancer et il y a eu une rémission.
Il est absolument en rémission.
Ouais. Il y a ses trois enfants qui sont là avec les affres de l'adolescence, de l'éducation, avec les plus et les moins, mais globalement des plus. Elle est heureuse dans sa vie,
Est mariée.
Voilà, avec ses copains, sa meilleure copine Sophie qui est au courant de tout. Bah, tout va bien lorsque tout bascule dans cette brasserie avec ce geste inoffensif de je m'essuie la bouche qui elle voit carrément des draps qui remontent dans un lit aussi.
D'où le coton damassé, c'est plus chic qu'un truc en papier, vous voyez, ou qui se mouche un peu, ça serait moche.
Ça aurait été du sopalin, il ne serait rien passé.
Ça va pas, non.
Exactement.
Donc,
c'est vrai, il y a un érotisme là. Elle ne voit même pas son regard. Souvent, on a un eye contact.
Elle n'entend pas sa voix.
Elle a cette bouche qui est une sorte de. Et du coup, à la fin, elle se rend compte qu'elle est affamée. Juste une bouche. Hein.
Ouais. Elle a de cesse de retourner dans ce restaurant tous les midis, juste pour le voir, l'observer, pour imaginer qu'il pose ses yeux sur sa nuque quand elle sort de ce restaurant.
Elle ne se retourne pas pour savoir s'il l'observe, mais
elle prend ce temps. Hein. Il y a un temps très très long de contact entre eux. Ils se voient, ils prennent énormément de temps. Lui, ce n'est pas des bébés de 20 ans. Quoi. Ils prennent le temps de ne pas gâcher ce temps d'avant. Et je me souviens d'un titre de Vialat, il y a très longtemps, qui était « Progrès en amour assez lent ». Et je trouve ça assez beau, et je trouve qu'ils prennent le temps de progresser en amour lentement. Et très tard, au bout d'un mois ou deux, elle va s'asseoir à côté de lui, ils se sont regardés, avec les yeux, ils ont été au bout du langage, du regard, et elle vient s'asseoir comme ça, elle ne le regarde plus, ils sont sur la même banquette, ils regardent en face la porte d'entrée, d'un ennui total, et elle lui dit « Maintenant, je suis prête ». Je veux entendre votre voix.
Et elle découvre qu'il est éjaculateur précoce.
Non, parce qu'il avait déjà, si vous voulez, c'est pas avec la voix que ça se passe. C'est un peu plus bas.
Non, mais je parlais de la suite.
Albert, non, il n'a pas précoce.
Et là, on se dit, est-ce que ça valait d'attendre si longtemps pour ça?
Il n'a pas 25 ans.
Ça arrive, il faut dire les choses.
Non, c'est vrai.
Moi aussi, je suis romancier à ma façon.
Vous êtes toujours au cœur des préoccupations de l'histoire.
Non, mais là, il prouve qu'il a lu, en tout cas. Il se trouve que cet amour, parce que ça occupe là, on va dire, le premier tiers de votre roman. Il y a trois parties. Cette première partie, qui est un jeu de séduction, de charme, et de justement, elle trébuche et sa vie bascule en se disant est-ce que je plaque tout, est-ce que je quitte tout pour cet Alexandre. Elle a envie d'être réinventée, je crois que l'expression est employée. Elle a envie d'être
réécrite,
redécouverte, reséduite. Elle n'a rien de particulier à reprocher à Olivier, à son mari, à la vie qu'elle a.
Bon, une forme de brutalité dans les
bas sexuels. Il y a eu au début, oui.
Peut-être un moment, elle rêve de quelqu'un un peu plus doux, je crois.
Mais
elle s'ennuie un peu, non?
Alors, c'est pas pareil. Non. C'est pas pareil. Le reproche des débuts, des amours tumultueuses et ensuite de réinventer l'amour, c'est pas pareil.
Ouais, ce qui est terrible, ce qui lui arrive, c'est qu'elle est heureuse, elle aime les gens qu'elle va quitter. En gros, elle aime son mari, elle aime ses enfants. La majorité des femmes, quand ça arrive, n'y vont pas. Ça foutra un chaos, un bordel pas possible de dire... Bah, voilà,
généralement, c'est pour les enfants.
Oui, mais c'est ça la le famille, drame, c'est qu'on reste soi-disant pour les enfants.
On a construit
combien de femmes ont eu leur vie, à commencer par ma mère, foutue en l'air parce qu'il fallait rester pour les enfants. C'est débile. Regardez dans la route de Madison, quand les enfants découvrent avec effroi les lettres et se disent waouh, ma mère, elle a eu un coup de foudre, elle pouvait avoir une histoire d'amour sublissime. En plus, elle a, au cinéma, il est pas vilain à ce moment-là, Clint.
Non, c'est vrai.
Et elle a renoncé pour nous. Et puis on a, ils sont un peu vilains quoi, les enfants. Ils
et se alors, disent, ils se disent, un mon papa, Dieu. Une maman.
Mais quand même. Et alors,
c'est ça qui
ils disent, maman, elle a foutu en l'air sa vie pour nous, mais et puis elle n'est plus là. Et je trouve ça dommage. Et donc là, le parti pris, c'est de se dire, elle y va, comme la chef de M. Seguin est partie.
Qui est très présente.
Alors que Seguin la papouille un peu, Albert, on le sait.
Les enfants ne vont pas totalement cautionner les décisions prises par Emma. Il y a un autre temps, après un événement au milieu du roman que je vous laisse découvrir, un autre temps où là, elle va se retrouver dans un camping des pins.
Pomme
des pins, pardon.
Ça existe, en plus.
Dans
à Cuc
avec Mimi,
à Cuc,
surnommée comme ça pour Michel Morgan.
Mais elle a une ressemblance avec Michel Morgan,
avec
monsieur Mimi,
avec un monsieur Bogossian qui sera là pour les menus travaux et pour la dépanner, pour l'accompagner
dans l'amour,
en voiture,
Albert, dans l'amour,
la fameuse. Autre rebondissement ensuite, la route des vins dont elle a toujours rêvé parce qu'elle a une manière de décrire la dégustation des vins d'une manière extrêmement érotique, personnelle, drôle, avec des expressions qui ne sont pas celles utilisées par un œnologue.
Non, absolument. C'est un langage amoureux, ça. Les Olivier et elle ont créé, parce que lui aime le vin et le bon, donc il l'initie dans leurs jeunes années d'amour au vin, qui est hyper important, le vin. Il y a une sorte de sang, il y a plein de choses autour du vin. Et elle se trompe toujours, elle parle tiens, il a une odeur de sabot, de trucs poilus comme une biquette. Il dit non, on dit pas ça, il faut dire des jolis mots. Et finalement, petit à petit, le langage des vins est le langage de leur désir. Donc, il a un parfum de rein, d'excitation, de draps qui tombent, de choses comme ça. Et le vin amène à l'amour, souvent.
Est-ce que vous avez voulu faire un roman, un portrait, c'est réglé aussi, vous avez évoqué rapidement votre maman, vous aviez un compte à régler avec justement ces femmes qui se sacrifient pour leur famille. Vous aviez envie d'inventer quelque chose, de vous baser sur... on parle beaucoup de Bovary. La chef de Monsieur Seguin est très présente. Alors la Blanquette...
Pour moi, c'est plus Blanquette.
Elle est là tout le long,
Bovary,
Blanquette.
Ouais.
Ça veut dire c'est la peur, enfin l'attrait de l'extérieur avec ses dangers éventuels, quitte à en mourir.
Ouais, moi j'ai pas de compte à régler. Je commence à être apaisé par rapport à tous ces trucs-là. Je trouve triste que des gens prennent le risque de passer à côté de leur vie. Elle est courte, elle est belle, elle est magnifique la vie. Je trouve ça un peu idiot au nom d'une morale qui est assez caduque, assez bête, de dire bah voilà, je me sacrifie pour les autres sans être égoïste. Mais je trouve qu'on a le droit d'aller se retrouver soi. Elle dit à un moment, Olivier lui dit plus tard dans le livre, mais t'avais du désir pour ce type. Elle dit non, j'ai du désir pour moi. Et je crois que c'est ça aussi, on a ce droit-là, on a le droit à être heureux. Je pense qu'on rend heureux si on est heureux, on aime mieux si on s'aime soi-même, etc. Donc je voulais prendre un personnage, vous savez, c'est de la mathématique, un roman, on prend une situation connue, et puis on met un petit virus dedans, on voit ce qui se passe. Bon, c'est Alexandre, et elle y va, comme la chèvre y va. Et on sait qu'on peut en mourir, mais c'est la valeur des choses aussi, de se dire, ma liberté, elle a un prix, c'est que je peut la perdre en allant la chercher. On a une époque où tout le monde veut être super libre.
Et donc, en fait, vous n'aimez pas du tout...
On ne veut pas mourir, on veut être dans le confort, mais on veut tout, mais sans payer le prix.
Donc, vous n'aimez pas du tout la chèvre de M. Seguin.
Ah, j'adore.
La morale, elle est
totalement
à l'envers de ce que vous dites.
Le texte a été amputé.
Ah bon.
Attention, d'abord on a enlevé le côté que c'est une lettre de Daudet à un type qui s'appelle Gringoire, poète lyrique, salarié, qui décide d'être freelance, c'est-à-dire de ne plus être salarié. Il lui dit, mais t'es malade, prends le pognon tous les mois et tout. Ça, c'est le cœur de la lettre. Il lui raconte l'histoire de la petite qui prend sa liberté et qui va se faire bouffer.
Non, mais je sais, parce qu'à cause de vous, je l'ai relu. Parce
oui,
que vous,
attendez,
vous,
on,
vous l'avez rajouté.
Voilà.
Voilà,
mais
vous
oui,
l'avez
et
rajouté.
En plus, ils ont coupé dans les éditions pour nos enfants la scène où elle part avec un chamois à pelage sombre pendant 2 heures, Albert.
Crac-crac.
Ouais, dans les fourrés.
Crac-crac.
Il dit à Gringoire, si tu veux savoir ce qui se passe, demande aux sources bavardes. Donc il y a quand même une dimension
ça, vous
de
l'avez
plaisir
vous l'avez...
érotique qui a été tronquée.
Vous l'avez
donc,
remis, pas... vous l'avez republié,
oui,
ça. Ouais.
Ce n'est pas ce qu'on nous a fait croire un texte sur la désobéissance. Si tu vas dans la montagne, si tu ne ranges pas ta chambre, nana, le loup te mangera. Alors le loup, c'est la baffe, c'est le père, c'est n'importe quoi. C'est un truc sur le désir, sur cette envie de liberté, de sensualité, même d'érotisme.
Enfin, ça finit mal quand même.
Ouais, mais quel bonheur avant.
C'est
elle est en transe tout le temps, quoi.
Mais Grégoire, filles, on veut que les enfants obéissent, donc on
trouve. C'est vrai, je suis d'accord.
C'est un très très beau texte, la chef de Monsieur Seigneur. C'est vraiment un très beau texte, mais il y a quelque chose de poignant quand même. Moi, j'ai toujours. Et la version non expurgée.
Mais c'est comme Bambi quand la mère
ce qui est saoulant, c'est que tu peux aussi quitter, entre guillemets, le groupe, l'establishment, ce qu'on te demande de faire, et être heureux et réussir et pas être bouffé. Or là, c'est ça qui me gonfle. Si tu pars, si tu sors de ça, bing, t'es puni. Bah non, au contraire.
C'est ça que je veux casser, moi. Et elle y arrive, elle prend le risque, elle n'est pas mangée, enfin d'une autre manière.
Et puis c'est une femme qui parle tout le long, c'est-à-dire que
la narration est tenue par Emma, et ce que j'ai trouvé assez troublant à travers son personnage et celui de Jacques, c'est qu'Emma, par exemple, aurait aimé écrire, et elle le dit, que finalement... c'est page 36, là.
J'adore.
C'est page 36, elle disait que c'était un manque qui l'avait fait souffrir, mais finalement, lire, c'est aussi écrire. Et quand le livre est refermé, on le continue, donc on continue à raconter une histoire. Et l'autre personnage, c'est le personnage de Jacques, qui est cet homme que Emma et Olivier croisent sur la route des vins en Italie, un soir alcoolisé mais joyeux, qui lui est un ancien publicitaire.
Comme par hasard.
Bah, c'est étonnant.
Qui rédacteur,
un ancien rédacteur de pub.
Voilà, rédacteur
comme
de
Grégoire
pub, comme
Blacour,
on disait
donc.
Avant. Qui écrit à présent des phrases qu'il fait graver sur du bois, c'est ça
hein? C'est une horreur.
Ouais,
c'est une laideur en plus, ce genre de truc.
Ouais, ouais voilà.
Ouais, mais quelques aphorismes suggérés même après par les jeunes en disant mais il faut rajeunir un peu tes
voilà.
phrases toutes faites.
Et tout d'un coup, je me dis voilà, il y a un parallèle entre ces deux personnages, j'imagine, avec vous.
C'est quoi la phrase avec le couteau déjà?
J'ai plus. Attends, je vais la retrouver. Là, elle est plus page 25. Elle est bien plus loin.
125 peut-être ou 225.
Non, c'est un peu plus loin. Non, parce qu'il y a des phrases qui sont amusantes, comme on peut les voir sur des mugs.
La mort est une naissance, la joie coule en nous comme du sang, ouvrons nos veines.
C'est formidable.
Ouais. Voilà.
Ouais, t'as ça sur ton mug, tu calmes tout le monde en même temps.
Ouais, c'est ça.
Et à ce moment-là, je me dis, est-ce que Jacques ne va pas être cet homme qui pourrait s'emparer du récit de la vie d'Emma pour en faire éventuellement une forme romancée?
Pas mal.
À la suite.
Voilà.
Ah, moi, j'ai... Non, Jacques, j'aime bien parce qu'il y a, j'ai vu ça, surtout aux États-Unis.
J'ai cru qu'il allait conclure, moi, Jacques, à un moment donné, dans un couloir. Bah, il y a des moments, où ça s'allait dans les couloirs. Oui. Hein.
Mais, j'ai vu ça aux États-Unis, des gens qui achètent des plaques avec des citations assez débiles, qui mettent chez eux, dans leur chambre.
Faites gaffe, il y en a aussi en France.
Il y en a en France, mais je mets ça loin pour pas qu'on, voilà. Et je trouve c'est amusant qu'un personnage qui a essayé d'écrire des choses, sur les crémantirites, sur les bagnoles toute sa vie, c'est pas quoi faire de ce talent qu'il a décrit. Il a aucun talent pour écrire un livre. Il va se mettre à écrire des idioties, il va les vendre comme ça.
Oui, sauf que là, il a raison, on rejoint aussi ce que vous faites, c'est-à-dire le sens de la formule, les phrases courtes, les punchlines dans les histoires, les manières de voir ou
d'aller
de résumer.
D'aller droit au truc, voilà, quoi, ce qui est la pub, qui est l'écriture la plus dégraissée du monde, où il n'y a pas de gras. D'ailleurs, il fait fortune à un moment parce qu'il fait un truc sur les chiens.
Absolument.
Alors du coup, il se tape toutes les dindes, les mémés qui viennent en disant « faites un petit texte joli, une petite phrase sur mon pinson, mon truc ». Et il fait fortune parce qu'il a dit « mon chien, c'est ce qui me donne du chien ». Alors la mamie, elle est super contente.
Ouais, et puis après, personne.
Elle a une allure.
La deuxième phrase, c'est « personne ne vous aimera autant que votre chien ».
Ce qui est vrai d'ailleurs.
Ça, c'est terrible.
Mais vous êtes défaitiste sur l'amour, c'est dingue.
Pas défaitiste.
Réaliste, c'est ça.
Voilà, réaliste.
Non, c'est pire. C'est pire.
Et ce personnage de Jacques, c'est de l'autodérision ou pas?
Un peu. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de prises de tête chez certains publicitaires rédacteurs qui se sont dit « Mon Dieu, je suis un grand auteur, on vend de la saucisse quand même, faut être très calme et très prudent et très lucide sur ce qu'on fait.
Bah, » il n'empêche en tout cas que le livre donne aussi à réfléchir sur la manière dont on vit sa vie, avec ou sans risque, la manière dont on a construit sa famille, la manière dont on a envie de gérer ou pas sa fidélité, puisqu'il y a beaucoup de questions autour de la fidélité, que ce soit de la part d'Olivier, qui a engagé une jolie Caroline, qui... c'est toujours agréable quand on vient acheter une voiture.
Ouais, de voir il le dit, vaut mieux ça.
Une jeune femme.
Une jolie fille qui sert le café, ce que pas très. Dans un premier temps, pas une belle mise en valeur du rôle de la femme, mais elle prendra son importance.
Elle va prendre un joli rôle. Ouais.
Cette Caroline-là va prendre son importance. La place aussi, le rapport de l'éducation entre ses parents, qui se disent comment on gère ou pas l'adolescence et l'entrée dans la vie, quel exemple on va donner à nos enfants aussi en fonction de notre comportement. Ça fait poser des questions, y compris dans les rapport à la maladie, puisqu'il y a ce cancer qui est présent et contre lequel Olivier s'est battu. La route des vins, avec des adresses peut-être à suivre. Il y a trois châteaux, moi il y en a un que j'ai envie de découvrir, c'est le troisième, il a l'air pas mal.
J'y suis allé, j'ai vu les deux. Ah oui, j'ai rien inventé. Je suis allé voir et c'est très très beau. Hein. Et
c'est près de Draguignan, c'est magnifique.
C'est où ça va? Près de Draguignan. C'est le château de Saint-Martin, pour ne pas le nommer. Ils ont un très bon vin.
D'accord, très bien. Saint-Martin est très bon, avec un peu de chance, il va envoyer une caisse.
Il devrait, là.
Non, avec modération. Une caisse chacun. Très bien. C'est chez Jean-Claude Lattès, c'est le nouveau Grégoire de la Cour. Et ça se lit, j'ai envie de dire, ça se boit aussi, puisqu'il y a beaucoup de vin là-dedans. Ça se déguste avec plaisir, danser au bord de l'abîme. Quand on vous annonçait la venue de Grégoire de la Cour, vos oreilles ont sifflé. Vous êtes rappelé quoi? Qu'est-ce qui a sifflé dans votre oreille?
Eh bien, immédiatement, Leïla, quand j'ai pensé à vous, Grégoire de la Cour, j'ai pensé à l'un de vos romans, La Liste de mes envies, qui a été un carton incroyable. Ouais. Et surtout, à l'adaptation au cinéma de ce même roman.
Jocelyne, t'as vu? Oh, 18 millions d'euros juste ici à côté de chez nous. C'est pas possible.
Une chance sur 76 millions de gagner et c'était tombé sur moi.
C'est bien la somme. C'est bien votre nouvelle vie qui commence.
Vous êtes riche, c'est un fait. Vous allez pouvoir vous acheter ce que vous voulez, faire des cadeaux. Mais attention. Attention, pourquoi?
Jo, tu sais, il faut que je te dise.
Rien de grave, j'espère.
Quand on a de l'argent, soudain...
Parce que si t'arrives à quelque chose...
On vous aime.
Ouais, c'est
trop. Il y en a quand même qui ont survécu, non? Ceux qui ont gagné 30, 50, 100 millions.
Mais justement! Justement!
Les filles, j'ai un truc à vous dire.
J'adore! L'argent rend fou, Madame Guerbet. Vous l'avez annoncé à vos proches?
Non.
Parfait.
Voilà un petit extrait de la bande-annonce de ce film. Qu'est-ce que ça fait tout d'un coup d'être appelé et de vous entendre dire j'aimerais bien prendre en main votre roman et le passer sur grand écran? Comment ça s'est fait?
Bah d'abord, il y a pire.
C'est qu'on vous appelle pas.
Je déteste votre truc, j'en ferai jamais. Non, c'était.
Ils appellent pas, j'ai un roman.
Non, c'est surprenant parce que. D'abord, en fait, en l'occurrence, pour la liste de mes envies, la demande pour le texte a été faite avant l'apparition du livre.
Comment c'est possible?
C'est-à-dire qu'en fait, les éditeurs ont des épreuves, ils ont des accointances avec des producteurs amis qui demandent des textes, des comédies, des choses. Et donc, on envoie parfois, l'éditeur envoie. Donc, avant même que le livre ne sorte et qu'on lui connaisse son destin incroyable, il y avait une envie de faire le film. Et on a dit oui parce que, d'abord, c'est toujours très, très joyeux. Et moi, j'aime bien l'idée qu'un livre, il a d'autres vies. C'est-à-dire, il vous échappe, il a d'autres vies, donne du talent à d'autres. Il y a eu le film, il y a eu trois versions de théâtre en France, en Belgique et à Montréal. C'est incroyable qu'un...
J'ai pas les chiffres, mais est-ce qu'il y a eu autant de gens qui ont vu le film que ceux qui ont lu le livre? Je crois pas. Il y a plus de monde ayant lu le livre. Ouais. C'est une leçon, ça, pour vous?
Pas pour moi, pour les producteurs.
Non,
moi, je m'arrête au livre. Moi, j'ai fait des livres, pas de films.
De se dire que ce que l'on aime, c'est l'imaginaire. Par exemple, Emma, pour en revenir au personnage de Danser au bord de l'abîme, chacun imagine son Emma. Ouais. Chacun imagine les cadres, le son de la voix.
Et l'image réduit beaucoup de choses. Le livre a mieux fait travailler l'imaginaire des gens, et les gens qui ont aimé le livre, me semble-t-il, n'ont pas eu envie d'aller voir une incarnation. Ouais. Ils préféraient rester sur eux-mêmes. Mais le truc a marché, il n'y a pas de souci. Mais il y a une méfiance, j'ai l'impression, de ceux qui aiment les livres à voir l'adaptation. Alors qu'il y a des très belles adaptations. Vous prenez Harry Potter, par exemple, c'est une adaptation formidable. Vous prenez The Notebook, c'est une adaptation formidable. Il y a des très belles choses. Ici, en France, il me semble qu'il y a encore une méfiance. On aime avoir rêvé ces personnages.
Et maintenant, vous êtes devenu milliardaire, vous récréez de la même façon la liste de mes envies.
Je ne changerai jamais. Je ne regarde pas derrière. Le livre, il correspond à une époque, à une insouciance, à un truc incroyable. J'ai écrit ça sans me rendre compte de rien. En attendant la parution de mon premier livre, j'avais un an à attendre. Et j'ai dit, tiens, je vais écrire autre chose pour rigoler. Et j'ai écrit ça. J'avais envie d'être une mercière ronde à Arras, vous imaginez. Putain, faut oser,
peut-être consulter, là, parce que...
Mais oui, mais je consulte. Ça va mieux depuis.
Vous êtes très femme du Nord, en fait.
Ah bah, je suis femme du Nord, mais bon, là, je vais descendre un peu dans le Sud, quand même, maintenant, parce qu'il fait beau.
Non, mais c'est
important. C'est que ça se passe à Arras ou ailleurs, à Nancy. On m'a dit merci, monsieur de la Cour, de raconter l'histoire qui se passe chez nous. J'ai dit, mais c'est Arras. Elle m'a dit, non, c'est pareil. En fait, c'est la province. Je me rends compte qu'il y a un décor de province et on s'en fout que ce soit le nord, le sud, c'est pas Paris. Et pour un lecteur, quand c'est pas Paris, c'est chez lui. Et c'est très touchant, ça.
Alors, justement, l'adaptation.
Vous voulez dire que chez nous,
passage...
à Paris, on n'est pas chez nous.
C'est possible.
Il faut le faire traduire. Il faut le faire traduire, surtout pour être lu en dehors du périphérique, voilà. C'est ça.
Ouais. J'ai pas de traduction encore en ch'ti. Pardon.
Non, c'est rien,
Excusez-nous, on était heureux. Pardon, voilà. je suis désolé.
D'accord.
Désolé, maîtresse.
Ouais, d'accord. Et donc, je me disais, l'adaptation, quand vous avez vu le résultat au cinéma, c'était justement votre imagination à vous.
Ah ben moi, je ne peux pas penser quoi que ce soit. Moi, j'ai écrit un livre, donc je sais la couleur, les parfums, la chair. Là, c'est une interprétation par une équipe, un réalisateur, un scénariste, c'est leur boulot. Et c'est vraiment leur œuvre, hein, je veux dire. C'est, moi, j'ai rien à dire.
Vous n'avez pas voulu intervenir,
Ne veux pas intervenir, parce que sinon, je l'aurais fait. Je pense que quand on adapte son livre, je suis assez d'accord avec David Fuenquino. S'il dit à un moment, je prends mon livre, La Délicatesse, je l'aime, je l'adapte, je le réalise, bon, en l'occurrence avec son frère. Il y a une cohérence dans son projet. À partir du moment où je décide de pas m'occuper du tout, je fais 100% confiance. Et c'est leur œuvre. Et voilà. Et moi, j'ai pas à dire c'est bien, c'est pas bien. Moi, j'écris un livre.
C'est Philippe Labro qui nous avait dit à ce micro, lorsqu'un auteur est adapté au cinéma, il est forcément trahi. Mais il faut qu'il accepte cette trahison.
Il n'y a pas de trahison, c'est autre chose. C'est un autre langage. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à trahir, ça voudrait dire être contre. Ou c'est pas un livre contre un livre. Ils auraient réécrit un livre, on peut comparer, mais là, c'est un autre langage.
Danser au bord de l'abîme pourrait être un film, c'est déjà.
Eh bien, oui. C'est déjà je ne le dis pas. Allez, sous. Oui.
Voilà, vous avez compris.
C'est ça que je veux dire sans le dire que c'est bien parti.
C'est déjà négocié, d'accord. Danser au bord de l'abîme, ce nouveau roman chez Jean-Claude Lattès, signé Grégoire Delacour. Voici l'humeur de Guillermo Guise.
Hey
Yeah, t'es content?
Nouveau.
Ta famille est contente? J'ai dit Guise, j'ai pas dit Guise.
Bonjour les amis.
Quoi encore?
Et alors, il m'est arrivé un truc bien dégueulasse cette semaine. Ça y est, j'ai l'attention de tout le monde, c'est bien. Donc alors, en gros, comme à chaque fois que j'ai la nostalgie des animaux décédés en 2010, je suis allé manger au McDo. Et anecdote authentique, quand je suis arrivé... Il y en a qui l'a compris, ça fait plaisir. Et anecdote authentique, quand je suis arrivé aux toilettes du McDo, je suis tombé sur un mec qui pissait dans le lavabo, quoi. Oh. En plein Paris Libre. Et pas Woodstock, quoi. En plein Paris Libre.
Et alors?
C'était fustif, hein. C'était mesquin. C'était pas hyper assumé, quoi. Il s'est pas retourné vers moi en criant, c'est parce que je suis pas en forme, sinon j'irais chier dans la graisse à frites. On était sur une dynamique de déni, voire sur une base de honte. Mais, alors, jusque là, évidemment, on va me dire, rien de bien. Enfin, si, c'est pas cool. En soi, c'est pas cool. Là, j'ai pas jugé celui ou celle qui veut pisser de manière non conventionnelle. Mais disons qu'après, quand tu te laves les mains, t'es plus dans l'innocence, quoi. Il y a un truc qui s'est brisé en toi. T'as la tentation du vote populiste. Alors, c'est entre autres pour ça que je vais pas vous faire un énième billet pleurnichard sur Davos et les milliardaires, contrairement aux wannabe communistes qui pullulent sur France Inter avec marqué humoriste sur leur carte de cantine. Moi, je suis dans la vie, la vraie, hein, ma syphilis, je la chope pas sur Internet. Je suis sur le terrain, moi, au plus près du citoyen. Là, en l'occurrence, si ce garçon avait eu 50 centimes à disposition, il aurait parfaitement pu pisser comme tant de Français avant lui, un peu sur la lunette, le reste dans la cuvette, et on serait tous rentrés chez soi en sifflotant, pas vrai, Maréchal?
C'est exactement ce que je fais.
Exactement. D'où ma question du jour, les amis. Sachant que l'argent est juste une convention sociale entre humains, pourquoi ne pas bêtement créer un rab d'argent pour en distribuer à ceux qui en manquent le plus, ceux qui en manque au point d'en mourir de froid dans la rue ou d'en souiller les mailles des lavabos, pas vrai, par Albert?
C'est ma pratique aussi.
Et je sais que les auditeurs vont se dire, oui, voilà, tiens, Nagui, il engage des débiles mentaux, hein, c'est tout à son honneur, quel homme merveilleux, déjà qu'il articule bien, si en plus il a un cœur. Bientôt, c'est le coude à coude avec Omar Sy. Alors, je sais, chaque fois que je me pose cette question en public, on me traite d'ignorant, de naïf, d'abruti, voilà, puis c'est l'escalade des injures, soi-disant ma mère tarife ses relations sexuelles, et là, comme je sais pas me battre, je me retrouve toujours à dire, oui, enfin bon, il n'y a pas de ce métier, au moins elle a un boulot, ça va aller, là, c'est pas parce que tu présentes le JT de France 2 que t'es obligé de dénigrer les gens, ben, voilà, mais ça, c'était avant, les amis, avant, parce que j'ai lu dans l'Obs.
Avant quoi?
J'ai lu dans l'Obs, oui, je sais, j'ai lu dans l'Obs. Qu'un tas d'économistes de renom plaidaient pour que la Banque Centrale Européenne crée de la monnaie et la file directement aux citoyens les plus démunis, sans passer par le circuit des banques privées. Ouais. Voilà, ça a un nom, c'est des termes un peu compliqués, donc voilà, on n'est pas là pour humilier Daniel Morin, donc je vais pas le faire, mais l'idée existe bel et bien, et quand j'ai lu ça dans l'Obs, je me suis dit, putain, je le savais quoi, je suis trop fort, je suis un génie, les gens sont pas prêts en fait. J'ai toujours été en avance sur mon temps. Regardez ma coupe de cheveux. Ouvrez moi les malins quand ça reviendra à la mode. Et ben yeah. Voilà, ben, ce fameux concept d'assouplissement quantitatif pour le peuple. Oui, désolé Daniel, mais il y a un moment où on est obligé d'avancer, hein, vous rattraperez votre retard après. Et ben, intuitivement, ce concept, il m'a toujours semblé logique. En soi, créer des suppléments d'argent, c'est plus à la portée des autorités humaines que, par exemple, créer des suppléments de panda, quoi. Voilà, je sens qu'il vous plaît pas mon exemple.
Non.
Mais je vais me permettre de vivre avec. Alors, si la justice sociale passait par la distribution des pandas, faudrait partir sur de l'élevage massif de pandas, sur de l'importation de bambou. Enfin, on parle d'un tout gros défi logistique, c'est vrai. Alors que l'argent, c'est un bout de papier ou un code informatique, et ça change des vies, quoi. Je veux dire, si t'es SDF, tu reçois un panda. Non, mais après deux heures, t'as plus rien à lui dire, tu sais plus quoi en faire, t'es chiant, quoi. Alors que si tu reçois de l'argent, tu peux acheter une tartine ou un cluedo, sans parler d'un loyer ou d'un gilet propre ou d'un accès direct à une cuvette d'un établissement, d'un commerce honnête. Et je sais que c'est pas l'unique solution. Et voilà que c'est plus complexe que ça, que tu comprends que bien que si, que c'est la planche à billets, l'inflation et les sociétés d'assistés, le ligue l'extrême droite et les pires heures de notre histoire, et ma mère pourrait baisser ses prix, je sais. Mais voilà, mais il faudra bien, qu'un déclic se passe un jour sous le concept d'argent et les souffrances que ça génère, parce que l'argent, c'est vraiment que de l'argent en soi, quoi. Voilà, vous en avez rien à foutre de ce que je raconte comme d'habitude. Non mais voilà, vous
avez raison, t'as
voilà,
raison.
Vous êtes pas prêts pour moi les amis, vous
non,
êtes
mais
pas
moi je suis d'accord avec toi.
Allez, bonne émission les amis.
Merci Guillaume.
France Inter. Nagui, la bande originale.
Au point virgule tous les mercredis 21h30.
Quart même.
Pour être tout à fait 21h15.
Pour être précis.
21h15.
Je ne dis pas quart ici dans votre noble patrie.
Ça dépend.
On dit 9h15 mais rarement 21h15. Mais tu peux lancer la mode, on sait jamais, comme la coupe de cheveux, un jour ça peut revenir.
Ça reviendra.
Vous êtes pas prêts. Grégoire Delacour, votre roman est également très musical. Il y a la bande originale de ce roman dans lequel on peut par exemple entendre
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi.
On imagine une imitation.
Elle semblait bien dans sa peau.
Maurice Carton, c'est ça, non?
Maurice Carton, ouais, c'est drôle. Qui est fan de Eddie Mitchell et qui chante du Eddie Mitchell il y a 70 ans sous les tentes, dans les supermarchés, dans les mariages.
Et qui a réussi à embarquer Sophie.
Il a levé une petite sublime avec sa chanson et les chansons de Mitchell, c'est drôle, ouais.
Et puis, il y a.
Le piano, ouais. L'opéra.
Eddie Mitchell encore là ?
Non, Traviata.
Oui, ça n'a pas marché pour Eddie Mitchell. Il a rien. Traviata, ouais.
Et alors, je ne sais pas où est dans ma machine. Ah, si, il est là, voilà. Parce que ça va être l'un des moments forts aussi musicalement du roman.
Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie,
immortel,
je veux qu'on danse
brel.
Quand c'est qu'on mettra dans ton.
Là, on est dans la route des vins avec le moribond.
Un moment joyeux, ouais.
On se demande ce qui se passe dans la vie, un tournant dans la vie. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse. Point de suspension, à vous de découvrir tout ça dans Danser au bord de l'abîme, le nouveau roman de Grégoire Delacour chez Lattès. Très musical. Très 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 musical, bah, très classique, bien, ouais. Il y a beaucoup d'opéras.
Il y a l'opéra cette fois-ci, j'ai découvert ça il y a 3 ans en fait. L'opéra, c'est ma femme qui m'y a traîné un petit peu. Et j'ai trouvé ça hyper chiant au début parce que c'est super long. C'est-à-dire pour demander l'heure, ça prend 10 minutes. Quelle heure est-il? Vous voyez, c'est terrible, donc c'est interminable. Comment tu vas? On sait déjà que le mec est mort et il pose toujours la question. Mais au fond, il y a une grâce musicale, il y a une tragédie sublime. Et c'est un des derniers endroits où les gens osent encore mourir d'amour. C'est ça que je trouve beau dans l'opéra. Il vient pas le salaud, et ben je prends le couteau et je me découpe et on n'en parle plus. Et je trouve que c'est quand même des choses assez belles et courageuses et engagées autour d'idées de l'amour à une époque où quand les gens font chier, on zappe, on prend quelqu'un d'autre. Il y a un engagement qui est certes ultra poétique, ultra utopiste, mais je trouve que fait du bien de savoir que humainement, on peut aller très très loin quand on aime à une époque où tout le monde se fout sur la.
À propos d'époque, votre roman se situe
aujourd'hui.
Aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas énormément d'internet, il n'y a pas énormément.
Non, j'aime pas dans les écrire avec les téléphones portables.
De portables.
Non, c'est pas. Je trouve que c'est pas des jolis mots. Tout c'est tellement nos vies, les émos, machin, ticone, gif, je sais même pas comment on dit. Tout ce langage-là, il m'intéresse pas. Il a pas sa place dans les livres pour moi. Les livres, c'est des mots. C'est tout ce quotidien-là, il est pas beau, je trouve. Donc ça me merde.
On va partir cette fois-ci dans le passé avec quelques dates de votre vie, des dates clés. Vous écoutiez en 1982, lorsque vous étiez publicitaire, justement Léo Ferré.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller. Plus loin.
C'est à tomber, mais
c'est super.
J'ai du mal à penser que vous étiez publicitaire en 82 et que vous aimiez Léo Ferré avec le
j'aimais
temps.
J'aimais Léo Ferré, j'aimais tous les chanteurs à texte. J'aimais Brel, j'aimais Ferrat, j'aimais les chansons qui disaient des choses.
C'est prendre de la hauteur par rapport au texte de la saucisse.
Ah ouais,
c'est ça.
Ouais.
Mais c'est en écoutant ça que vous vous dites tiens, pour Cœur de Lion, je vais trouver comme slogan, vous n'aviez jamais mangé de camembert.
Non, c'est pas en écoutant ça. Ça c'est un métier. Il faut bien avoir un métier pour manger. Mais j'écoutais des choses comme ça pour vivre, pour avoir des émotions incroyables. C'était super beau. Moi, je sortais de pension. J'ai passé énormément de temps en pension depuis l'âge de 10 ans. Et j'ai tout raté de la musique. Quand j'ai découvert la première fois les Beatles, j'ai dit, ah, c'est super, c'est sympa, faudrait aller les voir. On m'a dit, pauvre con, ils sont plus ensemble. j'ai raté. Et donc, je suis arrivé très tard à découvrir et j'ai aimé la chanson française. C'est ma langue, c'est aussi bête.
Et votre
j'ai
femme découvert tard. Américaine ouais. vous a fait découvrir la les country. Beatles.
Non.
Non, mais genre, des musiques ouais. plus ouais. traditionnelles américaines ouais. que celles que l'on entend ouais. Mainstream.
Ouais. Et j'aime bien ça, ouais.
La country aussi, la country.
Oui, oui, il y a des choses très très belles. Après, je suis triste de ne pas comprendre
des
paroles.
Il y a des choses partout dans tous les styles.
Ouais. Ouais, et je trouve dommage. Ceci dit, il y a souvent I love you baby dans la langue anglaise, donc c'est moins riche. Mais quand vous écoutez du Ferré, du Ferra, du Brel, c'est immense. Quoi. Il y a eu Balavoine qui à un moment a été à deux doigts, et c'est con qu'il soit parti trop vite, mais il aurait été un très très grand écrivain de chansons. Mais c'est des mots... inouï, énorme ce qu'ils ont
puisqu'on
fait. Puisqu'on
parle de punchline, de slogan, de publicité, la fluidité de l'écriture de vos romans, vous êtes déjà frotté à l'exercice de la chanson ?
Non, parce que je sais techniquement pas comment on ferait. Je sais pas comment on fait.
Ah, papier,
est-ce qu'il faut... Oui, mais je sais. Mais est-ce qu'il faut une musique d'abord ? Est-ce que j'en sais rien ?
Ah bah, chacun
un grand compositeur de chansons qui fait des comédies musicales m'a dit, c'est extrêmement simple, j'ai une recette. Alors, il est milliardaire, lui, pour le coup. Hein, il me dit, je prends des chansons, des musiques existantes et je refais les paroles. Et je dis pas quelle est la musique et je donne à un musicien. C'est incroyable comme technique. Donc vous prenez avec le temps, ouais. vous faites, vous prenez la valse à mille temps, donc vous lui, prenez Déshabillez-moi, ouais. il prend des musiques, en fait, des rythmes existants,
connu.
Il réécrit dessus et il donne à un musicien sans jamais dire la musique. Et c'est hyper malin.
C'est qui, c'est Luc Plamondon ?
Non, je peux pas le dire. Mais il est super connu.
Bon. En 1990, on va trouver, en 1997-98, vous écoutiez... La BO d'un été 42.
Ouais, puis j'ai regardé, et puis elle, je ne pouvais plus d'elle. C'est comme Ali McGraw, hein. C'est le genre de choses qui vous transpercent.
C'est l'éveil sexuel.
Oh, c'est plus que ça. C'est pas que sexuel. Ça, c'est facile.
C'est quoi ? C'est l'interdit ?
C'est la grâce absolue. C'est des gens, cette actrice-là, et McGraw dans Love Story, il n'y a pas mieux. Quoi. C'est la grâce, c'est Romy Schneider chez nous, quoi.
C'est transgressé, c'est aussi.
Ouais, mais c'est au-delà de la sexualité. C'est
non,
truc
mais je parle de transgression.
Ah ouais, c'est
on revient à la chèvre de M. Seguin, ouais. c'est-à-dire ne pas y aller parce que ça se fait pas.
La chèvre, c'est une transgression.
Seguin a bien aimé, il était content. C'était pas interdit à l'époque, la campagne.
Vous réalisez en 98 Préférence.
C'est pas ce que j'ai fait mieux.
Vous avez des regrets vraiment.
Non, ça n'a pas du tout marché. Je me suis raté. Je voulais aller voir si moi, faisant de la pub, j'avais réalisé des courts métrages qui avaient eu des jolis succès. J'avais réalisé des films de pub moi-même. Et un jour, on m'a dit, t'as du talent, amuse-toi, fais un film. Donc c'était très compliqué et j'ai pris comme un défi parce que dans ces années-là, dans la pub, tout le monde voulait écrire, on voulait tous réussir autre chose que ce qu'on avait. Et j'ai osé y aller et j'y suis allé. Au moins, j'ai été jusqu'au bout. Et c'était pas bien en fait. Je crois que j'étais pas du tout fait pour ça.
Et le loup vous a mangé.
Ouais. Et la fatigue, et l'absence d'argent, et la difficulté avec des comédiens très très forts, avec des égos énormes. J'étais pas prêt pour ça. J'étais pas assez fou, malade, barré pour faire un film. Parce que je crois qu'il faut être extrêmement grave pour faire un film. Et c'était pas mon langage. Et je me suis planté. J'ai mis 10 ans à accepter que je me suis planté. C'est dur, hein, de se prendre une baffe. Parce qu'il y a de l'argent, il y a du monde que vous entraînez dans le tumulte.
Qu'est-ce qui était le plus difficile? La gestion humaine, justement, des Jean-Marc Barre, Annie Girardot et autres.
Paradès et tout, des personnalités incroyables.
Comédiens en
Annie,
casting.
Elle était sublime. Mais était très malade, on ne savait pas, c'est compliqué.
C'est le côté économique.
Il y a les gens à gérer, parce que les gens, comme c'est un premier film, ils vous bouffent. Et j'étais pas assez, je vous dis, facho par rapport à ça. Et puis après, le scénario, il évolue de jour en jour en fonction de, il y a moins d'argent, on vous enlève 4 jours, et ça devient, je sais pas, c'était très dur et pas concluant, mais au moins j'ai l'effet.
Voilà, l'avantage d'une expérience. En 2011, premier roman publié, et vous écoutiez. Don't let
yourself go. Je suis passé aux anglo-saxons.
C'est pas mal.
Et les mots sont beaux, là. Everybody cries. C'est pas gay non plus, toujours.
Ah non, il y a
qu'est-ce
des larmes.
Que c'est beau.
Il y a des larmes
qu'est-ce
et des douleurs. Everybody
hurts. Ça, c'est REM, c'est les grandes claques, quoi. D'une élégance, d'un truc incroyable.
Tout le monde fait du mal, tout le monde pleure. C'est...
Et la vie, elle est comme ça, et on est là pour l'enchanter malgré tout. Quoi. Donc c'est...
Vous écrivez votre premier roman à 50 ans, l'âge d'une renaissance, l'âge d'un virage, l'écrivain de la famille. C'est ce premier roman. Ça a été difficile de le publier, de trouver...
Pas du tout.
Non ?
Ah, pas du tout. Alors là, ça a été comme dans un livre. Je l'ai envoyé en fait à un auteur que j'adore, que je venais de découvrir, qui s'appelle Jean-Louis Fournier, qui est le magnifique auteur, entre autres, de Où on va papa et de Veuf, qui... pour moi, est un de ses plus beaux livres et que j'invite tout le monde à lire et relire. Et je lui ai envoyé parce que j'ai aimé son écriture, que je trouvais très... On parlait d'écouéné, il n'y avait pas de grâce. Et c'est un truc, c'est beau, tragique, il y a tout chez Fournier dans les purs. Et je lui ai envoyé mon bazar et il a lu.
Bazar.
Il a lu, il a aimé, il m'a dit je m'en occupe. Et il m'a dit cette chose serait belle, on ne se connaissait pas, il m'a appelé, il m'a dit je serais fier.
Pardon ? Je prends 30%.
Non, un peu moins. Mais il a dit je serais fier que mes livres soient à côté du vôtre un jour en librairie. C'était un cadeau incroyable. Chique, ouais. Il l'a adressé chez Lattès et Lattès l'a pris. Ça s'est fait, mais comme un conte de fées.
Et un an plus tard, il y a un phénomène qui se déroule, en l'occurrence, si vous écoutiez.
Et l'argent fait tourner le monde et il a fait tourner les têtes et le livre a rapporté de l'argent.
Je précise que c'est vous qui avez choisi Pink Floyd et Money.
Oui, absolument.
C'est pas une
absolument.
Vanne que nous faisons
non, mais
sur le succès de la liste.
J'ai une grande autodérision par rapport à ça. Et c'est vrai que quand on me demande est-ce que vous avez déjà gagné au loto, je dis non, j'ai gagné avec ce livre. Donc ça va, c'est mon ticket de loto ce livre.
C'est honnête de le dire. Vous avez fait lire votre roman à votre épouse ?
Alors elle lit, mais jamais au tout début... Ou alors elle le lit mais elle ne dit rien parce que c'est hyper embarrassant de demander à un proche de lire.
Ouais.
Vous le foutez dans la merde. S'il trouve ça nul, il ne va pas vous le dire. S'il trouve ça bien et que c'est pas bien, et vous dites il est nul. Donc c'est pas un cadeau qu'on fait
surtout,
à faire lire aux proches.
Surtout quand il s'agit d'un couple avec des amours extra...
Ah non, là celui-là, oui, je lui ai raconté.
Extra-conjugal.
Ouais. J'allais, comme c'est une femme qui écrit, il y a des choses que je ne voulais pas me rater dans la description d'un certain fantasme dans le café qui n'est pas page 25, mais que je vous enverrai encadré, où il y a une scène assez... Il faut pas se rater. Ouais, c'est pas chaud, mais oui, si on veut. Mais il faut pas se rater dans les mots. Il faut pas blesser les gens quand on se met à la place d'une femme qui a un fantasme sexuel. On peut pas. Un homme, il peut pas le trouver tout seul, je pense. Donc ça, oui.
Et donc elle était consultante sexuelle.
Ouais, on va dire. Voilà. Puis on essayait de voir si tout fonctionnait. Ah, bah, c'était crédible quand on faisait photos. Non. Et par contre, elle m'a beaucoup accompagnée sur. On voyait que le bonheur, qui est un livre difficile, ouais. Où je pensais à chaque fin de partie, à trois parties, avoir fini. Et j'ai continué et j'ai fini la deuxième partie et je fais lire, là, pour le coup, c'est un truc qui me touchait énormément, ce livre par rapport à paternité, par rapport à plein de choses. Et elle a dit, c'est bien, mais t'es un salaud. T'as pas fini le livre, t'as oublié la petite fille. Et c'est grâce à elle que j'ai écrit cette troisième partie, je crois, qui emmène le texte.
Il y a encore trois parties dans votre roman. Quelle est l'importance de la structure d'un roman ?
C'est tout à fait hasardeux pour celui-là.
Franchement ?
Qui a eu trois, ouais. Oui, puis en plus, la première partie, c'est un compte à rebours, hein.
Oui,
ça part du chapitre 72 à 0. Ouais. Non, il y a trois, parce que ça s'est présenté comme ça, parce qu'il y a stand entre deux quand elle va, vous l'évoquiez, Nagui au camping, qui est un temps entre deux, elle est à la lisière de sa vie, elle est entre la terre et l'eau, elle ne sait pas, entre l'amour absolu qui la dévaste, son mari, tout, elle est paumée à un moment, cette fille.
Bah, on est déséquilibré tout le long du roman, ouais. Vous jouez
et
avec
en fait,
ça.
Elle va là, dans cette deuxième partie, pour moi, ce qui était important, c'est qu'elle a cette foi absolue dans l'amour et en elle, et comme on évoquait par rapport à l'opéra. Et elle dit à cette Mimi qui a 70 ans, qui est moi un personnage qui me touche, qui tricote tout le temps, on verra pourquoi, qui attend, et qui a sûrement connu le loup elle aussi, qui s'est fait déchiqueter des bouts, et elle attend encore, elle y croit encore, et quand Emma lui dit, tu sais, Alexandre, j'aime tellement que je pourrais mourir, parce que c'est ça qu'on croit, qu'on peut mourir, elle lui dit non, il faut vivre.
Pas mourir pour l'amour, mais vivre pour l'amour.
Il faut se battre et en vivre.
Et elle fait des frites aussi.
Ah, ça c'est génial.
Et elle a arrêté
elle
de fumer.
Est Madame Frite.
Donc ça lui redonne.
Ça, ça la rend
même...
sympathique. Hein.
Oui, oui.
Ah, ouais.
Ah, c'est Madame Frite.
Ça devient Maman Frite.
Donc. Maman Frite.
Madame,
ouais.
Madame.
C'est Madame Frite. Madame Frite avec les mains entaillées, des coupures, à force d'éplucher les pommes frites. De terre.
Il y a des clients audacieux, en plus.
Il y en a un
qui, quand même, qui exagère.
Nous allons.
Qui joue de sa frite.
On va vous laisser tous les deux, hein, c'est fini. Nous allons parler des vrais secrets d'une vie de couple réussie. Le titre est aguicheur, n'est-ce pas? Tout ce qu'on ne vous a jamais comédie sur le sexe et les questions que vous posez. Nous avons demandé Anne Sauzet de Lagarde, vous êtes psychologue clinicienne, membre titulaire du Collège européen de Gestalt thérapie.
Gestalt thérapie. C'est très important.
Mais, je suis désolé. on vous a demandé de venir pour d'abord nous expliquer s'il y a une école du couple, s'il y a des recettes, parce qu'apparemment vous révélez des secrets pour
tout à fait,
que le
tout
couple à fait. Vive et survive aux affres de la vie.
D'abord, peut-être dire à Grégoire Delacour que pour moi, en tant que clinicienne, le mieux, c'est de lire des romans. Et c'est de vous lire. Parfait. Vraiment, c'est là où on apprend beaucoup de choses sur qui on est. Et pour les couples aussi. Voilà, donc merci d'avoir écrit ce livre.
Merci d'avoir
Ça m'a permis de réfléchir sur le coup de foudre. Et puis de voir comment, quand je parlais de coup de foudre, je disais, mais est-ce que vous avez vécu des coups de foudre? Tout d'un coup, il y avait une espèce d'atmosphère autour de la table.
Ça existe, le coup de foudre.
Et moi, j'en ai vécu un. Ah, moi, peut-être, je ne sais pas si c'était vraiment un coup de foudre. En tout cas, il y avait une ambiance extraordinaire quand on commence à révéler les coups de foudre et une intimité tout de suite.
Alors voilà. Dites-nous, ça existe le coup de foudre ou pas?
Ah, moi, je pense que ça existe, oui. Oui, ça existe. C'est le coup de foudre, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est fulgurant. C'est quoi la foudre, hein? C'est fulgurant, c'est un instant, c'est un moment. Juste, vous le dépliez, ce qui est intéressant, hein, vous le dépliez sur plusieurs pages et nous expliquer ce qui se passe dans ces trois semaines que vivez-vous.
La question, est-ce que le coup de foudre est constructif ou est-ce que le coup de foudre est justement juste un coup?
C'est peut-être, ça dépend. Voilà, ça peut être juste un coup.
Ouais.
Et puis je me suis dit, mais le coup de foudre, est-ce que c'est juste un coup? Et pourquoi pas, et aller jusqu'au bout du coup.
Ouais.
Ou alors, est-ce que ça se transforme? Est-ce que la passion n'est pas la suite du coup de foudre? Et après la passion, est-ce qu'il y a quelque chose autour de ce que moi, c'est mon job, de regarder comment ça se construit, comment ça se déconstruit un couple?
Il y a quelque chose qui a dû vous plaire dans le roman de Grégoire Delacour, que j'ai retrouvé un peu dans vos secrets, c'est ce besoin de réinventer le couple ou de casser, entre guillemets, la monotonie.
Voilà, moi,
vous dites que le couple n'a pas les mêmes saisons que les saisons traditionnelles de la vie.
Alors, s'il a les mêmes saisons, mais ça revient très vite, c'est comme la vie, quoi. Hein, ça revient et voilà. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est de regarder que peut-être le couple, c'est pas la chef de Monsieur Seguin. Et je pense que, alors bon, c'était intéressant de mettre la chef de Monsieur Seguin en parallèle avec l'histoire d'Emma, mais il me semble que le couple, s'il y a de l'ennui, c'est pas la peine de rester dans un couple s'il y a de l'ennui. Si on est attaché à un piquet, c'est pas la peine de rester dans un couple. Par contre, peut-être qu'il y a à regarder quelle forme de permanence il peut y avoir dans un couple et en même temps, quelle imprévisibilité. Parce que chaque couple est confronté à l'imprévisibilité. Il peut y avoir la permanence et puis tout de suite de l'impermanence. Et c'est le coup de foudre de l'un des partenaires, par exemple, pour un autre.
Mais le défi du couple, c'est de durer ou justement de rendre excitant chaque jour et de réinventer chaque jour?
Je ne crois pas que ce soit de durer. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure. Durer, c'était avant que ça durait, parce qu'on vivait moins longtemps, parce que les femmes pouvaient pas partir non plus du couple, donc de toute manière, il n'y avait pas le choix. Et c'était pas des couples comme on vit aujourd'hui. Hein. Donc l'idée de durer, c'est pas très intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est la permanence et l'engagement. C'est-à-dire s'engager avec un partenaire peut-être. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est difficile de s'engager. Et en même temps, dans mon cabinet, je vois beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont envie de continuer à s'engager. Et pourtant, il y a eu des choses qui se sont passées. Et pourquoi pas des coups de foudre ou pourquoi pas des passions extérieures.
C'est bien pour le couple d'avoir la tête qui tourne de temps en temps.
Je ne sais pas si c'est bien ou pas, ça dépend de la personne et du coup.
Que Emma voit passer Alexandre en disant, je vais y aller.
S'il n'y a que ça, ce n'est pas grave, c'est humain. C'est pas très grave d'en regarder.
C'est-à-dire, c'est comment on fait?
Non, mais regardez, aller plus loin. Là, en l'occurrence, Emma veut aller plus loin, puisqu'elle remet en question sa vie. Olivier va plus loin aussi vis-à-vis de Caroline. Enfin,
ce qu'il faut savoir quand même, Nagui, c'est qu'il y a quand même un divorce sur deux dans les couples aujourd'hui.
C'est vrai, carrément?
Ouais. Un sur deux. Avant, c'était à Paris, en France. Maintenant, la province a rejoint Paris. Et donc, c'est un sur deux.
Donc un couple sur deux ne va pas au bout de son histoire.
Tout à fait. Enfin, va au bout de son histoire.
Oui, elle est plus courte.
Voyez, vous êtes négatif. Moi, le bout de l'histoire, c'est jusqu'à la mort, quoi, le coup.
Ah oui, mais ça, c'est un petit peu...
C'est pas très triste en soi.
Je sais plus si
c'est un peu.
Ouais, un peu.
Non, pas forcément. Vous savez, moi, je dis toujours, je suis d'accord avec vous sur le fait que l'amour n'est pas fait pour durer. J'ai dit ça dans un lycée, que l'amour, on le fait rimer avec toujours ce qui est la plus... énorme bêtise. La vraie rime d'amour, c'est chaque jour.
Mais c'est chaque jour qui peut être.
Merci, merci. Et toujours, c'est la somme des jours. On s'en fout toujours. L'amour, ça doit être intense. Et la durée, on s'en fout.
Totalement d'accord.
Et après, c'est jour après jour. Un jour, on arrive
plus. Comme au tennis, tu joues point après point.
Non, c'est pas ça. C'est que tu dis.
Mais c'est vrai.
Tu joues en même temps. Tu dis pas, on va rester toute la vie ensemble. Par contre, on va rester tous les jours.
Aujourd'hui. Moi,
je disais, comme disait François Valéry,
elle est mon
Oui, mais quand même, je pense qu'il faut. Il peut y avoir l'intention que ce soit peut-être toujours et de construire quelque chose. Sinon, c'est du jour le jour et c'est du coup de
foudre. Les gens se marient, ils disent je t'épouse pour le meilleur et pour le pire. Les gens, ils sont béats, ils disent oui pour le pire. Vous vous rendez compte, la débilité, c'est le meilleur. Le pire, on n'en veut pas.
Vous dites aussi que.
Ah oui, mais le pire, il arrive tous les jours.
Ouais, bah, sinon là, faut partir.
Mais le meilleur aussi, non ?
C'est sympa pour celui qui est dans la mouise.
Oui, mais attendez, on finit pas, on fait comme dit.
C'est des conceptions hédonistes, un peu
facile. Notre compteur, on fait la planche à billets pour la mouise et on lui finit.
Ouais, mais ça, c'est de l'hédonisme à trois balles.
Un peu plus, quand même. Bah,
c'est-à-dire, évidemment, dans votre livre, le malheureux, il a le cancer. Effectivement, c'est un cas de conscience pour elle à ce moment-là. Effectivement, mais c'est des choses qui arrivent.
Mais tout arrive. Regardez les gamines qui ont rendez-vous le lundi avec un copain et se prennent une balle au Bataclan. C'est les vies, elles basculent comme ça en permanence. C'est pour ça qu'il ne faut pas raisonner dans la durée absolue, mais dans le présent. Moi, je suis convaincu que c'est le présent qui est magnifique.
C'est le présent qui dure.
Il peut être l'éternité, il peut être toute la vie, le présent. On est dans le passé, on dit c'était mieux avant, le futur, ça sera bien. Putain, c'est maintenant qu'on est vivant.
Autre exemple.
Le présent, il faut le faire durer. C'est un état d'esprit, le présent.
L'exemple que vous donnez pour dire que le présent a de l'importance dans l'amour, c'est que je t'aime, ce n'est pas une notion d'immédiateté présente, mais au contraire de futur. Ouais.
Je t'aime, ça veut dire je t'aimerai, en fait. Parce qu'on n'a pas besoin de le dire si on aime. On est en plein dedans. Moi, j'en suis convaincu. Je t'aime, c'est une promesse pour l'avenir.
Il y a le présent et puis il y a le next. Il y a l'après. Parce que s'il n'y a pas de projet, un couple ne fonctionne pas.
Ah, mais on peut avoir des projets dans le présent. Moi, c'est maintenant que je veux le faire. Je ne vais pas dire dans 10 ans quand on sera vieux.
Un projet, c'est pas dans 10 ans.
Yvette Horner.
Projet, c'est demain. Le projet, c'est 10h10. Le projet, c'est après-demain. Mais c'est aussi
l'enfer sur l'océan.
Alors, dans votre livre, vous employez des expressions qu'on a déjà beaucoup entendues, comme aimer, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Mais il y a aussi peut-être des efforts à faire pour que chacun transforme l'autre.
Je sais pas si on transforme l'autre. Peut-être ce qu'on peut transformer, c'est ce qui se passe entre moi et mon partenaire. Mais je veux pas changer l'autre, mais j'aimerais tellement le changer. Mais c'est pas possible.
Et alors vous dites télécharger toujours la dernière version de votre couple. Ça, c'est, ça veut dire qu'il faut, c'est ça l'évolution? En employant une formule un peu moderne
en tout cas, c'est la vigilance dans le couple, c'est-à-dire savoir nourrir son couple. Moi, je suis pas la chef de Monsieur Seguin.
Savoir garder des moments à deux et pas forcément se faire bouffer par
l'extérieur
les enfants,
et par les autres aussi, parce que les coups de foudre, on pourrait aussi imaginer qu'ils arrivent à un moment où c'est tellement triste et tellement ennuyé dans notre couple
que ça peut
être corrélé.
C'est que ça arrive pas forcément quand on n'est pas bien. L'amour, il est pas contre, il est pour. C'est ça qui est. On n'aime pas quelqu'un parce qu'on n'aime plus quelqu'un d'autre. C'est ça la violence et la beauté du truc. C'est que tout d'un coup, c'est de l'amour en plus. Ça se multiplie. C'est comme les petits pains de qui on sait.
Oui, mais après, c'est des choix à faire.
Après, c'est des choix et la majorité des gens renoncent. Et c'est normal, il y a un poids de morale, il y a un poids de société.
Au vu de ce que j'entends dans mon cabinet, je ne suis pas d'accord avec vous.
Je suis venu parce que
parce que je pense que les gens passent à l'acte. Après, passer à l'acte, avoir une relation extérieure, ça ne veut pas dire aller s'engager avec celui-là. Ça peut être aussi un moment. Et puis le couple après, souvent il vient me voir.
J'en ai besoin de ce petit vertige.
Je voulais un vertige. Il y a un joli conseil que vous donnez dans le livre aussi, c'est de ne pas fêter que la Saint-Valentin, c'est-à-dire
de se fêter
de surprendre, voilà, de surprendre aussi les secrets d'une vie.
On peut fêter la Toussaint avec
de couple réussi chez Inter. Chez Inter Édition, Jean-Paul et Anne Sauzet de Lagarde, comme quoi les couples, vous voyez, peuvent aussi travailler ensemble et faire de bonnes choses. Merci. Est venue Anne à ce micro. Daniel Morin, on voit bien que personne n'est à l'abri du coup de foudre. Ça peut faire peur, c'est excitant aussi. C'est la vie, ces rebondissements, ces aspérités.
Stop, bon Dieu !
Qu'est-ce qu'il y a ?
Mais vous êtes drogué, monsieur Guy. C'est pas possible d'être brillant comme ça tous les jours. Depuis lundi, c'est un sans faute. Un strike de génie dans les quilles de la pensée libre.
Oh oui, bien.
Vous avez l'œil de l'espadon qui fend l'écume, monsieur Guy. Même si aujourd'hui, vous avez plutôt le regard de la rascasse pas bien fraîche. Hein. Le coup de foudre est loin de pouvoir toucher tout le monde. Quand on est un homme qui se respecte, qui respecte son cœur et son corps, on se forge un paratonnerre, un sentiment violent. Et puis, au risque d'employer une expression un peu moderne, je trouve que vous poussez le bouchon un peu loin, monsieur Guy. Vous êtes un homme à le cœur de pierre qui avait de sentiments pour une seule personne.
vous. Monsieur, je grimpe sur tout ce qui bouge, et parfois même sur ce qui bouge plus.
Oh non!
Si à chaque fois que vous avez des coups de foudre, je ne vous serre plus la main, je ne veux pas finir comme Claude François. Vous devez être chargé d'électricité, ça va être infernal. Ah bah tiens, puisqu'on parle de Clo-Clo, vous pensez quoi du coup de foudre François-François?
Le coup de foudre, c'est génial, ça m'arrive tout le temps.
Vous pouvez développer?
Ça a commencé quand je me suis acheté un transistor. La première fois que j'ai entendu ça.
Et tu danses avec lui.
J'ai eu le coup de foudre immédiat pour C. Jérôme. Quel talent, quelle classe, quel tempo!
Oui, mais je parlais du coup de foudre amoureux, moi.
Mais fallait le dire tout de suite. Le coup de foudre amoureux, ça n'existe pas. Si ça existait, je serais plus puceau. J'aurais déclaré ma flamme.
Et comment?
En chantant du C. Jérôme. Oui, c'est moi.
Oui, parfait, merci. Merci, François. Vous voyez, monsieur Guy, en matière d'amour, le coup de foudre est une légende et en plus, ça n'a rien d'excitant. Une fois encore, désolé, mais vous avez dit
n'importe quoi.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Oh, des chansons, il y a...
Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux coulent.
C'est un peu la BO du livre de Grégoire Delacour, Danser au bord de l'abîme. Il y a énormément de titres, et il y a Madame Butterfly aussi. Grégoire Delacour est notre invité, il signe Danser au bord de l'abîme et il est notre invité jusqu'à midi et demi. C'est la bande originale avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Sur le quiz.
Absolument.
Daniel Morin.
Bonjour.
Albert Roy. Bonjour. Et Charles Ornac, la compagnie du clavier. Et notre invité, Grégoire Delacour. Oh. Qui signe Danser au bord de l'abîme, c'est cette héroïne, Emma, qui emploiera cette expression. On est bien avec elle, comme sur un fil. Tout se fait sur un fil. On a l'impression que chaque seconde, justement, sa vie peut basculer. Elle a son destin en main et elle le prend surtout en main.
Mais c'est ça qui est bien. Voilà, elle y va et on pense toujours qu'au bord de l'abîme, on peut tomber. Mais je crois qu'on peut aussi s'envoler.
Elle fait des rencontres, elle a envie de croquer la vie. C'est un âge charnière, vous avez dit tout à l'heure, avoir échangé avec votre épouse. Vous avez pensé aussi à votre maman. C'est-à-dire les femmes de votre vie ont inspiré, sans être forcément présentes dans ce roman, mais ont inspiré en tout cas Emma.
Forcément, j'ai la chance d'avoir été entouré par des femmes géniales. Ma mère, dans la pub, il y a énormément de femmes, soit chez l'annonceur ou en agence, directrice artistique, tout ça. Donc j'ai eu tout ça et j'ai travaillé sur des marques qui s'adressaient aux femmes dans la cosmétique, tout ça. Et c'est vrai que c'est extrêmement agréable, confortable. J'ai plus d'amis, j'ai des amis femmes et j'en ai pas trop masculines. C'est comme ça, c'est chacun son truc. Et surtout, moi, j'ai eu un coup de foot qui m'est arrivé exactement comme ça il y a 17 ans. Et j'avais envie de rendre hommage à tout ça. Et le coup de foot d'une femme, le désir d'une femme qui est heureuse avec ses enfants et d'une puissance, d'une beauté incroyable, plus qu'un homme qui est plus, j'ai envie de dire, pour l'avoir vécu, plus technique, enfin, il y a plus d'urgence, et là, il y a plus de vertige, de choses.
Pour bien comprendre, ça. Votre compagne actuelle, vous...
Moi, il y a 17 ans, j'ai rencontré une femme, j'avais rendez-vous avec elle pour un truc de boulot, et je l'ai vue de trois quarts d'eau, elle était en train de se retourner, je sentais que c'était elle avec qui j'ai rendez-vous, et avant même qu'elle ne se retourne complètement, je suis tombé amoureux, il y a eu un truc incroyable.
Alors que vous étiez heureux.
Quatre enfants, mariés depuis 20 ans. Ouais. Et j'ai
vous êtes un salaud alors.
Non, parce que le juge c'est lui qui a été le salaud. Je vais partir ruiné évidemment, mais c'est pas grave ça. Et ça a été un truc extrêmement fort. Évidemment, on se pose la question, est-ce qu'on a le droit? C'est pas une question de droit, c'est une question d'urgence à vivre. Alors évidemment, il y a de la casse parce que les enfants, parce que tout est compliqué, parce qu'on déçoit des gens, parce qu'on quitte des gens qu'on aime, et on se dit mais c'est terrible, je t'aime mais je m'en vais. Mais vous allez mourir, c'est pareil. Hein, on quitte des gens qu'on aime, donc il faut essayer de s'arranger. Pour avoir une jolie vie, pour partir bien et que les gens, tout le monde soit en paix. Et après, ça se rattrape.
À propos de la mort, vous dites une phrase, ou du moins une philosophie très jolie. Je ne sais pas si c'est la vôtre, vous êtes allé la.
Chercher sur une plaque en bois.
La pêcher quelque part. C'est celle de dire qu'il faut toujours prononcer les prénoms de ceux qui sont morts ou qui ne sont plus là pour qu'ils restent vivants.
Ouais.
Et je trouve ça formidable comme
c'est, idée. Je crois que ça a été inspiré.
Je m'exerce à ça, je trouve ça.
Ça a été inspiré, je crois, par un souvenir que j'ai de la femme d'à côté. Où Fanny Ardant dit à Depardieu, est-ce que tu prononces de temps en temps mon prénom? Parce qu'ils sont amants, ce serait compliqué leur histoire. Et elle dit, si tu prononces pas mon prénom, je peux pas être vivante. Et ça, ça m'avait marqué, parce que je trouve ça très très beau, que les gens, ils ont un nom, si on les nomme plus. Vous savez, c'est comme les gens âgés, pareil, si on les touche plus, on meurt. Ouais. Si on n'est plus nommé, on n'existe plus.
C'est ça. Ouais. Et là, vous aviez donc envie d'avoir le point de vue féminin de ce coup de foudre.
Oui, parce que je trouve qu'un un type qui a un coup de foudre, c'est assez banal. D'abord, on le voit tous les jours. Il y a un truc, c'est les mots m'ennuyaient. C'était proche de ce que j'avais vécu, donc j'ai pas envie de raconter.
Pourquoi
mon truc.
Tous les jours?
Pardon?
Pourquoi vous dites tous les jours? Les hommes ont des coups de foudre tous les jours?
Non, mais je pense qu'il y a du désir énorme tous les jours.
Ouais.
Ouais, je pense qu'il y a des plus hommes qui sont... Ah, j'en sais rien, je ne suis pas assez femme encore.
En
ça
tout
vient,
cas, on peut accuser mais... les hommes d'être mécaniques, alors que là, on voit bien que c'est plus profond.
Je trouvais que ça m'enchantait moins. Vous savez, quand on écrit, on a envie de prendre des risques. Soi-même, danser au bord de l'abîme quand on écrit. Je veux dire, être une femme de 40 ans, plutôt jolie, tout ça, qui est dans ce danger-là, c'est plus amusant pour un écrivain que de raconter un type de 40 ans. Moi, j'ai vécu, ça ne m'intéresse pas trop de raconter, parce qu'on ramène à soi. Et c'est l'imaginaire aussi, la joie de l'écriture, c'est de virevolter comme ça, quoi.
Oui, et puis elle prend beaucoup de risques dans sa vie, dans sa famille, dans les relations avec ses enfants, de passer pour à la traîtresse, pour celle qui justement va être peut-être déclencheur.
Abandonner papa.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et sa vision du monde, parce que je voulais aussi qu'elle ait une vision poétique des choses. Oui. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a des petits chapitres d'une ligne ou deux. Elle a un sentiment aussi poétique du monde. C'est un poète québécois, j'ai eu un débat il y a quelques années là-bas, et qui ont parlé de la poésie, et quelqu'un dans la salle disait, mais c'est très compliqué, on comprend rien à vos poèmes, on comprend rien, c'est chiant. C'est vrai qu'il y a la poésie, parfois on se demande ce qu'on lit. Et il a répondu, vous savez, la poésie, ça ne s'explique pas, ça se soupçonne. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que dans cette dimension de... Alors on parle de coup de foudre, mais enfin, c'est pas que le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est une mèche qu'on allume. Après, c'est la passion. C'est ce qu'on accepte de consommer de soi, de s'engager soi dans cette vie-là, qui me semble important. Et tout ne s'explique pas. Il faut accepter qu'il y ait une part de mystère dans l'amour, dans la vie, dans la mort, et c'est très très important. On essaie de tout expliquer aujourd'hui. Tout expliquer, pourquoi il y a des pauvres, des riches, des machins, pourquoi le monde va pas. Mais il y a des choses qu'il faut laisser aller aussi.
Alors c'est quoi? C'est un immense carpe diem que vous voulez, même si le carpe diem, encore une fois, était très pessimiste.
Hein, oui, il ne faut pas oublier la fin de la phrase.
Crois le moins possible à l'avenir. Ouais. Hein, donc
Carpe diem, oui, c'est aussi profite de tout de suite, parce que tu ne sais pas quand on viendra te niquer la gueule.
Non, c'est quoi ça. Minimum crédit l'imposteur. C'est vraiment crois le moins possible à l'avenir. Donc
C'est maintenant, c'est parce que ce qui va arriver, ça peut être dramatique, mais on le voit tous les jours.
C'est ça qui est excitant.
Bah, moi, je trouve aussi.
Danser au bord de l'abîme, Grégoire Delacour, nous passons de l'excitation à Daniel Morat. C'est
la surexcitation. Aujourd'hui, notre invité est là pour parler, au travers de son œuvre, du coup de foudre. C'est quoi le coup de foudre? Est-ce que ça existe, le coup de foudre? Est-ce une bonne chose, le coup de foudre? Je vais demander ce qu'il en pense à mon bon ami, le maréchal Ganache. Maréchal, bonjour, vous allez bien?
Négatif.
Oh, qu'est-ce qui se passe?
Avec l'arrivée du froid et du verglas, j'ai mon fauteuil roulant qui patine. Et rien que ce matin, je me suis pris un bus dans la gueule et j'ai écrasé deux chiens.
Ah mon Dieu, je comprends. Vous êtes chagriné d'avoir blessé ces pauvres.
Mais non, négatif. Je suis surtout furax d'avoir des bouts de viande de kleps dans les rayons de ma roue.
Bon, vous pensez quoi, maréchal, le coup de foudre?
Ah, le coup de foudre. Quelle merveille.
Ça vous est arrivé, Marge?
Affirmatif, deux fois.
Ah, racontez-nous.
La première fois, c'était avec Raymond, de mon épouse, là, maréchal.
Je crois que c'était Edmond.
Oui, c'est vous qui avez écrit le texte, hein, ça va. Avec Raymond.
Oui, poursuivez.
Hein, ça va. Mon épouse, la maréchal, décédée en 54, quand à mon retour d'Indochine, je lui ai fait l'amour trop fort avec son bassin à craquer.
Et cet Edmond, vous l'avez rencontré dans quelles circonstances?
C'était un jour d'été. J'étais jeune soldat et j'effectuais des manœuvres avec ma garnison. Nous marchions au pas quand j'aperçus Raymond, qui se baignait dans une rivière. Elle était belle, mon Dieu. Quelle vision enchanteresse.
Mais qu'est-ce qui vous a plu en premier?
Ses poils. Elle en avait partout. Des poils noirs et roux, arrivés avec la puberté. Ça avait l'air d'une douceur délicieuse.
Elle était poilue à ce point-là?
Oui, extrêmement poilue. Raymond, jeune à quatre pattes, on aurait dit un marcassin.
Oh, c'est mignon. Et alors le second coup de foudre?
J'en chiale.
Je comprends.
C'était pendant la guerre. J'étais dans mon baraquement, je me reposais en lisant Femme actuelle. Et pendant ce temps-là, mon aide de camp, le brave Ding 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 Ding, prenait sa douche. Le coucher de soleil qui entrait par la fenêtre et traversait la douche me laissait deviner en ombre chinoise les formes de ding 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 ding. Il était gaulé comme un véritable aphrodite, un petit Apollon, le petit salaud. Instinctivement, je me suis levé de ma couche
et j'étais lui savonner le dos. Il avait un grain de peau d'une douceur incomparable, une peau satinée qui sentait la papaye. J'ai pas pu résister, je l'ai plaqué contre le mur en bambou et comme une bête assoiffée de
fiche... Oui, c'est bon, on a compris.
Voilà. C'était mon second coup de foudre.
Dis donc, passionnant. Merci Maréchal. Allez, on passe à l'actu et à cette très mauvaise nouvelle. C'est la mauvaise nouvelle de la semaine. La France, en France, la natalité est à la baisse. 14 000 naissances de moins l'année dernière par rapport à 2015. Taux de fécondité est passé en un an de 1,96 à 1,93 enfants par femme. Que faire? Écoutons les bons conseils du Maréchal Ganache.
Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Les femelles ne pondent plus. La France décline, elle file vers l'oubli. Redonnons-lui espoir en la repeuplant. Pourquoi ? Parce que la France est le plus beau pays du monde. Un pays magnifique, mais qui malheureusement a perdu de son panache en laissant filer ses colonies. Ah, les colonies, contrées aux paysages merveilleux, aux populaces mal dégrossies. Mais quel paradis que nos anciennes colonies. Le Tonkin et sa population servile à l'éternel sourire. Les Caraïbes inondées par la nonchalance autochtone. Le Maghreb et sa douceur de vivre entre farniente et vol à la tire. L'Afrique noire et ses indigènes qui nous parlent, mais que malheureusement on ne comprend pas. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Au bon vieux temps des colonies, mes amis, là, on avait un taux de natalité fier et couillu.
Oui, mais alors que faire, maréchal ?
La solution est toute trouvée, Morin. Reprenons possession de nos colonies. La fleur au fusil et le slip sur les chevilles. Repeuplons la nation au rythme du zouk. Envoyons dans nos campagnes ces filles à la peau sucrée pour faire remonter la sève dans les veines moroses de nos métropolitains qui bandent mou. Organisons des voyages copulatoires dans nos comptoirs où entre cocktails et lambada à grands coups de reins tropicaux, nous ferons remonter ce fameux taux de natalité moribond.
Oui, c'est très bien, mais pour ceux qui sont mariés et qui veulent rester fidèles à leur épouse, on fait quoi, maréchal ?
Là, je sais, c'est fort simple, Morin. Ça s'appelle le devoir conjugal. Si on n'a pas envie, on y va quand même. Dans un effort de solidarité nationale, j'en appelle à tous les Français en état de tenir une érection de plus de 3 minutes. À partir de maintenant et dorénavant, chaque samedi au coucher du soleil, la femme sera en position sur la couche nuptiale. Son mari, une fois au garde-à-vous, se rendra dans la chambre maritale et honorera sa bourgeoise pour garder une cadence fertile, je conseille la pratique du coït en chanson. Contre les viettes, contre l'ennemi, etc. Jusqu'à l'assaut final.
Ah là là, si tout le monde joue le jeu, on va le récupérer, notre pays, nom de Dieu. Merci maréchal. Vous avez compris, amis auditeurs patriotes, à partir de ce soir, coucher du soleil, tous au boulot, bon week-end.
Merci, Daniel Morin,
avec
vous.
Avec Nagui.
Grégoire Delacour est notre invité ici, une dansée au bord de l'abîme chez Jean-Claude Lattès, ce roman que j'ai dévoré, parce qu'il faut préciser aussi que y a une espèce de suspense et on a envie de savoir ce qui va se passer, ce qui va arriver au personnage, on a envie de savoir la suite, y compris vous parlez de ces, vous appelez ça des petits chapitres, j'ai envie d'appeler ça comme des flashbacks, des parenthèses, des communications téléphoniques qui restent sans réponse, ou des téléphones qui se raccrochent trop vite, ou des encore une fois, allusion ou un parallèle fait avec la chèvre de Monsieur Seguin, et vous avez une très bonne idée, parce que la première chose que j'avais envie de faire en fermant le livre, c'est de la relire, et quand j'arrive à la fin du roman, je me dis la bonne idée, c'est que vous l'avez publiée en intégralité, cette fois-ci, et sans qu'elle soit tronquée. Voilà, donc tout... mes encouragements et mes conseils pour prendre du plaisir avec Danser au bord de l'abîme. Leïla vous a préparé un brouillon de culture.
Oui, absolument, Grégoire. Je sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence, bien entendu, avec un son pour vous.
Il s'appelle « La liste de mes envies ». Il commence à avoir beaucoup de succès, mais sans aucun... ça, c'est le meilleur des trucs, des pubs, sans aucun... article des médias et des journalistes simplement par le bouche à oreille des lecteurs. Donc ça c'est vraiment bon, alors les journalistes vont s'y mettre après en disant que c'est eux qui l'ont découvert, mais là non, je peux vous le dire en tant que libraire, ce sont les lecteurs qui ont découvert par eux-mêmes ce bouquin.
Voilà, c'est un extrait de la chronique du libraire à Houppette, le fameux Gérard Collard. C'était en 2012. Il vise assez juste finalement. Il indique clairement que votre livre, c'est vraiment une découverte de lecteurs, et j'imagine que il y a rien de plus beau pour un auteur.
Oh ben oui, c'est très beau. En plus, le livre est sorti, on m'avait dit, c'est un deuxième roman, les deuxièmes romans marchent jamais. Ouais. Il est sorti en pleine guéguerre de présidentielle. Il y avait le petit nerveux, le petit rond là, qui se foutait sur la gueule en 2012. On dit, il faut jamais sortir un livre pendant une période d'élection. sur papier, c'était voué à l'échec et les gens ont pris le bouquin. Et voilà, ils l'ont fait passer un par un, par un, par
ils
un.
Ils ont fait le coup, là, maintenant, là, en pleine période d'élection.
Ouais. Ouais, moi je me dis.
C'est son credo.
Voilà, c'est ça maintenant. Je me dis, il faut sortir là.
Et comment vous expliquez justement que la critique n'ait pas eu accès à votre livre à ce moment-là?
Moi, j'étais pas connu. Les gens s'en foutent un peu. Vous savez, s'il y a tellement de livres, j'imagine un journaliste littéraire, il reçoit quoi, 40, 60 bouquins par jour. Donc lequel il va lire? Donc je sais pas, ils en ont pas parlé. Et c'est très bien. Finalement, c'était très bien.
Oui, ça passe.
Parce qu'on aurait dû avoir un livre, un roman d'un inconnu avec une mercière qui gagne au loto et qui en veut pas.
C'est vrai que ça fait pareil.
Suivant, pas envie. Hein. Mm-hmm. Surtout un ronde à ras, vous imaginez, elle est crachin et tout. non, c'était très bien. De toute façon, on contrôle pas et ça a été une chance inouïe et puis une histoire dingue.
Et votre rapport à la critique, comment ça se passe maintenant?
Moi, je critique jamais la critique.
D'accord.
Alors c'est une règle. Impérial. Ils font leur boulot, je fais le mien. Des gens aiment, des gens n'aiment pas, c'est leur problème.
Ouais.
Vous
lisez quand même.
Ouais, je me protège pas mal parce qu'après le succès, évidemment, il y a des gens qui ont été méchants pour être méchants parce que c'est arrivé à tout le monde. Hein. C'est arrivé à David Fuenquino, si on en a parlé. C'est arrivé il y a plus longtemps à Guillaume Musso. C'est arrivé à Puertola. C'est arrivé à Dicker. Quand il y a un succès, donc j'attends Faye ce qui va se prendre pour son prochain livre. Mais voilà, il y a une sorte de on l'a découvert, on le connaissait pas, puis maintenant qu'il est connu, c'est chiant, je sais pas. Il y a un truc curieux, donc je me protège un peu parce que parfois ça peut faire mal, parce que parfois il y a un de mes mômes qui dit tiens j'ai entendu un truc méchant.
Ouais.
Et c'est injuste, et on peut pas répondre, on peut pas se battre, et c'est pas le lieu de ça. Donc la critique fait son boulot, moi je l'admets, et chacun a le droit de dire, et pourvu que ce soit un peu intelligent.
Oui, pourvu. On poursuit avec un autre son.
Letto per voi, Le quattro stagioni dell'estate di Grégoire Delacour, edito da Salani. Le storie di questo libro sembrano slegate tra loro solo apparentemente, ma c'è un tema che le accomuna tutte.
C'est tellement sexy. L'amore.
C'est beau, hein.
Ah là là.
C'est la version italienne et féminine donc du libraire à houppette.
Je sais pas ce qu'elle dit, mais j'ai le coup de foudre.
C'est une libraire italienne, voilà, qui beau, parle du Quattro Stagioni dell'Estate di Grégoire Delacour.
C'est beau. C'est super beau. Pardon.
Vous faites partie de cette caste d'écrivains français qui s'exportent très très bien.
Ouais.
Vous vendez beaucoup à l'étranger. Est-ce qu'il y a des pays où vos romans sont particulièrement bien accueillis? Vous avez des lettres, je ne sais quelle manifestation de lecteurs.
Oui,
en fait.
Pardon ?
Corée du Nord.
J'attends, je suis à la frontière, on est très bien en Corée du Sud.
Et aussi,
on attend, je leur lance des bouquins à la gueule, mais bon. J'ai cette chance-là d'être traduit et d'avoir des éditeurs fidèles et surtout des lecteurs fidèles. Donc j'ai fait beaucoup de tournées parce qu'il faut aller rencontrer les gens et c'est extrêmement émouvant. De penser que vous écrivez un petit truc dans votre cuisine avec votre petite langue et que ça part dans le monde, que ça voyage et que ça rend des gens, ça touche des gens et qu'il y a une universalité dans vos trucs. La liste, pensez que dans les pays arabes et en Israël, j'ai les deux livres côte à côte chez moi, ça me fait rire, que cette mercière d'Arras, encore une fois, a fait rêver des gens dans un kibboutz ou dans un... C'est incroyable de ce que ça
Arras,
touche.
C'est toujours Arras.
Ah bah moi, si elle est Arras, elle ne bougera plus.
Non,
ça
joue
une place, un nom à Arras.
Arras, on comprend en France le choc.
Ah oui, ça reste Arras dans les traductions, bien
voilà.
Sûr. Ah oui,
le choc entre l'argent et le cadre d'Arras.
Ouais.
Mais est-ce que ça parle aux Italiens, aux Espagnols?
C'est exotique, s'en foutent. Et vous savez pourquoi Arras? C'est pour remercier Fournier. On en parlait tout à l'heure, parce qu'il a vécu à Arras et j'ai situé le décor à Arras, ville que je ne connaissais pas, figurez-vous. Juste pour lui dire merci.
Une place magnifique à Arras.
Deux, il y en a deux.
Et est-ce qu'il y a un pays, alors, en particulier, vous avez sensation?
Non, ça marche très bien dans quatre pays d'Europe. Voilà, après, ailleurs en Bulgarie, mon éditeur il me dit l'élite bulgare est partie, ils lisent plus la langue, etc. Donc c'est compliqué. Si vous faites 1000 exemplaires là-bas, c'est un miracle pour eux.
D'accord.
Mais en Angleterre, je suis très très fier d'être traduit en anglais parce que c'est une source de fierté. C'est l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne où ça marche très bien en Europe. Après, à l'étranger, on n'a pas vraiment les chiffres. Plus on s'éloigne, vous savez ce que c'est.
Est-ce qu'il y a des pays qui vous détestent?
On parlait de la Corée du Nord.
Ah, c'est moral.
Non, mais il a raison, la Corée du Nord, je pense.
Oui, mais ça, c'est un compliment.
Et je sais pas. Ils le disent pas.
Les États-Unis, vous avez essayé? Est-ce que votre.
Ils sortent aux États-Unis. Ouais. Le livre sort aux États-Unis, bien sûr.
Et pour finir, un petit cadeau pour vous, Grégoire Delacour. Je ne sais pas comment vous êtes accueilli en Suisse, mais moi, je vous offre une revue suisse. C'est 7. C'est une très très belle revue augmentée. C'est les meilleures histoires, en fait, du site 7.info, qui est un site de référence en Suisse de journalisme et d'investigation. C'est un peu comme la revue 21 en France, avec des reportages longs, illustrés. Et là, c'est l'homme et la mer. Et c'est l'ancrage, en fait, de ce numéro. Et on peut l'aborder autant d'un point de vue alimentaire que écologique que fantasmagorique et merveilleux par le biais de Jules Verne. Et donc c'est une sorte d'anthologie des meilleurs reportages sur l'homme et la mer.
Et la mer en Suisse, c'est important.
Et très.
En tout cas, la mer. Non, c'est très beau, la mise en page est magnifique.
En tout cas, la mer est importante dans votre roman, puisque ça devient l'un des personnages avec la renaissance de la famille, ou en tout cas des liens entre la maman et ses enfants. En train de nager, on est vraiment.
Puis on vient de l'eau. Hein.
On sait que voilà, et on sait que que l'eau c'est la naissance et c'est la renaissance de cette famille. La mère quand ils se parlent en nageant ensemble. À découvrir dans Danser au bord de l'abîme chez la thèse signée Grégoire Delacour. Voici The XX.
I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space.
Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold.
On hold the XX dans la bande originale. Notre invité Grégoire Delacour, danser au bord de l'abîme chez Jean-Claude Lattès. On a parlé des musiques, des opéras qui sont très présents. Il y a Othello également. Quand je dis qu'ils sont présents, c'est pas uniquement des musiques qui sont évoquées, mais il y a carrément des textes qui sont retranscrits. Il y a des l'opéra est présent aussi parce que elles vont Mimi et Emma à l'opéra sur leur chaise s'installer.
Ça c'est beau.
Ouais,
ils écoutent devant la mer un opéra toutes les deux. Et il neige.
Mais ce sont les textes aussi qui vous parlent. Hein, c'est pas.
Les textes sont beaux. Il y a une manière. Il y a beaucoup d'au-delà dans l'opéra. C'est-à-dire on s'aime au-delà de l'espace, du temps, de nos humanités. Par exemple dans Rusalka, c'est une histoire extraordinaire d'une fille qui est un poisson qui vit et qui arrive un jour à la surface de l'eau, qui voit un être humain et qui tombe amoureuse, et elle a tout perdu parce qu'elle ne sera jamais une femme, elle est plus sous l'eau et elle est comme ça entre deux eaux et elle va se perdre, et c'est très très beau, et l'opéra nous émerveille avec ces choses là
Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse quand c'est qu'on mettra dans trop.
je veux qu'on rit, quand c'est qu'on mettra dans le trou, tout est là.
Il a bien raison. Ouais.
On est dans la route des vins et ça fait partie de l'une des philosophies qu'il y a dans ce livre. Et puis il y a aussi des musiques plus proches de nous, plus actuelles. C'est l'imitateur d'Eddie Mitchell qui se retrouve à faire plaisir aux enfants, gamins, aux gamins, en faisant Pharrell Williams, Happy. Danser au bord de l'abîme, Jean-Claude Dattès, c'est l'éditeur, Grégoire Delacour en est l'auteur. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé pour tous nos auditeurs et auditrices qui respectent, et à juste titre, l'institution sacrée du mariage et qui ont été choqués par cette promo dégueulasse de l'adultère.
C'est vrai.
Honte à vous, monsieur Delacour.
Oui, oui.
Désolé pour nos auditrices féministes non zoophiles qui ont été choquées que Grégoire Delacour trouve que son héroïne était plus proche de la chef de monsieur Seguin que d'Emma Bovary. Monsieur Delacour, c'est un pervers. Désolé pour tous les fans de Grégoire Delacour qui nous ont reproché d'avoir spoilé ou divulgaché ce livre, et notamment la fameuse page 25. C'est vrai, c'était pas bien, mais ça va, les gars, on vous a pas dit qu'à la fin, elle meurt, l'héroïne, dans une cave, tuée par Rocco Siffredi.
Dans tes rêves.
J'ai vu le film, il est très bien.
Merci Grégoire de la
Cour. Merci.
Danser au bord de l'abîme chez Jean-Claude Lattès. On restera avec les livres puisque lundi, ex-prix Renaudot, Daniel Pénac sera notre invité cette bande originale.
Ouais, ça fait 20 ans qu'on attend la suite de la saga Malocène. La voilà enfin.
Et ben voilà, et on en parlera lundi. Passez une très bonne journée sur Inter avec les carnets de campagne de Philippe Bertrand.
Bon week-end.
À lundi. Merci. We'll be right back.